29e de ce Radio Barque, on se retrouve, Michel, pour notre sommaire avec des paroles de campagne parfois dangereuses que les auteurs sont obligés de renier tout de suite après. Et ça, comme on dit en occitan, a marqué mal.
Oui, alors il est normal, en fait, que chaque candidat, en fait, et ses soutiens, ait une parole politique dans la compétition, notamment en premier tour.
Défend son parti.
Et forcément défendant son parti, d'être contre leurs adversaires, en fait.
Bon, bien entendu.
Normal, quoi. Là où, bon.
Seulement.
Il y a des limites, en fait, à cette parole, dans chaque camp, de droite ou de gauche, d'ailleurs. Quand l'on sait pertinemment, comme le savait par exemple certains soutiens d'un candidat de gauche notamment...
Éliminé au second tour.
Qui savait pertinemment, bon, c'est un leader régional en fait, en l'espèce, près de chez nous, sachant pertinemment que son candidat allait être battu et archi-battu par celui qui maintenant est au second tour, je parle d'Emmanuel Macron. On ne peut pas tenir des propos, en fait, de meeting, en fait, auprès des militants de l'autre électorat, qui laisserait entendre que celui auquel on va nécessairement demander de reporter ses voix, est le pire, en fait, des pires adversaires, et que, par voie de conséquence, au premier tour, il ne convient pas de voter pour lui. Je veux dire, on peut être à la fois, me semble-t-il, contre un adversaire, et en même temps, connaissant un rapport de force bon, déterminé, faire en sorte que sa parole politique, nécessairement du second tour, soit suffisamment crédible auprès des électeurs
voilà.
pour que les électeurs reportent leur voix sans considérer
sans trop d'état d'âme.
En considérant qu'ils ont voilà, un débat de conscience absolument insoutenable.
Ouais,
c'est ça qui est condamnable.
Comme dit l'expression, il ne faut pas insulter l'avenir.
Exactement.
Surtout pas en politique.
Donc je suis de ceux qui militent pour un peu plus d'intelligence et de diplomatie dans le discours politique, qui évite ce genre de situation extrêmement dangereuse. On le voit aujourd'hui avec la crispation des opinions et les débats de conscience que certains se posent. J'y vais pas, je vote, je reporte, etc.
Voilà.
La parole politique, bon,
et
Jean-Claude.
Voilà, et ces paroles risquées, finalement, ne font qu'inciter les électeurs indécis à être encore plus indécis, à être encore plus interrogatifs, perplexes.
Surtout des électeurs qui ont tendance à déconsidérer, effectivement, les vertus mêmes de la parole politique, son intérêt, sa pertinence, etc.
Voilà,
c'est ça qui est dangereux, effectivement.
Ça fait douter du degré de sincérité de certains élus haut placés et qui ont le pouvoir, rappelons-le. Alors, justement, après les présidentielles, dont je rappelle que nous sommes tenus à un devoir de réserve, mais ça ne nous empêche pas de parler de ce qui va se passer après, et notamment des législatives, qui commencent à se profiler avec certaines idées que de ce qui peut se passer.
Parce que les premiers sondages sont sortis et qui laissent entrevoir, notamment pour le parti qui aujourd'hui fait à la majorité absolue à l'Assemblée, le Parti Socialiste, des résultats relativement catastrophiques. Entre hypothèse basse, 20 et quelques députés, hypothèse haute, une quarantaine. Alors, ce sont des projections qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes.
Bien entendu.
Cela dit, c'est moi là-dessus que je voulais insister que sur les aspects financiers des législatives en question, car ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que les financements publics résultant de cette élection législative représentent la partie la plus importante des financements publics alloués effectivement aux partis politiques. Pour mémoire, il faut rappeler que pour chaque voix qui se porte sur un candidat labellisé Parti Socialiste, Front National, en fait, Les Républicains, peu importe, c'est 1,25 euro par électeur. C'est pas
négligeable. Un euro, un quart.
Bon, tu votes pour je ne sais qui, paf, boum, tu alloues 1,25 euro.
Alors multiplié par des millions de voix.
Ça fait beaucoup d'argent.
Je vais
y revenir. Autre aspect du financement public, pour chaque député élu pour un parti, c'est 45 000 euros par député, sur 5 ans.
Prenons le département
quand
on a plusieurs centaines de députés, ça chiffre.
Prenons le département de l'Aude, par exemple, où nous avons 3 députés sortant socialistes. Imaginons hypothèse catastrophique, que je ne retiens pas, mais enfin bon, ils ne sont pas réélus.
Ça fait 135 000 euros perdus, rien que pour l'Aude.
En moins dans les caisses du Parti Socialiste. Aujourd'hui, dans la région, en fait, Occitanie, 34 députés sortants.
Ce qui faisait un apport, en gros, d'1,5 million d'euros.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Parti socialiste ayant 292 députés...
Ça faisait un apport de un peu plus de 13 millions d'euros.
Je n'ajoute pas cette somme. Hein. Les 1,25 euros par électeur ayant voté pour le Parti socialiste.
Oui, une paille quand même.
C'est important. Hypothèse haute, je rappelais, du sondage, encore une fois, à prendre avec des précautions.
Un sondage restant un sondage.
Hypothèse haute. Hein. 40 députés.
T'es-tu livré à un calcul sur la perte possible ?
Conclusion. Perte possible, ne serait-ce que sur la partie faite du financement des députés.
Là, la perte possible, on est à plus de 11 millions d'euros.
Tu rajoutes les millions résultant des 1,25 par électeur. On arrive pratiquement au double. Donc tout ça pour dire que j'aurais pu prendre l'exemple d'une législature antérieure avec le républicain.
Règles et de la loi.
C'est pour faire comprendre en fait aux électeurs que certes il y a effectivement à la fois un aspect politique, représentatif effectivement de ce qu'est l'électorat aujourd'hui, de ce qu'il veut faire et avec qui, mais qu'il y a aussi en fait un sous-jacent effectivement à cela, une dynamique et une économie financière que peu de gens connaissent et qui peut se traduire pour le parti gagnant ou le parti perdant par des conséquences financières qui peuvent être dramatiques pour le parti en question.
Voilà, donc un parti qui devra peut-être revoir ses techniques de management et de gestion, c'est possible.
Oui.
Pour terminer cette deuxième partie, alors revenons sur Narbonne, Narbonne-Ville même, et même Narbonne-Hôtel de Ville. Michel, avec Madame Garbet.
Oui, qui a été virée, virée donc au conseil municipal. C'est une expression qui n'est pas si vulgaire que ça. Après tout, elle a été virée.
Oui, elle n'est pas académique, mais elle
dit. Elle a été virée.
Elle est populaire. Alors, ce qui est amusant, d'être populiste.
Ce qui est amusant quand même, si je puis dire, c'est que c'est l'argument utilisé par Didier Mouly pour proposer cette délibération qui est à la fois qui retire en fait sa fonction d'adjointe. Parce que il faut le préciser pour nos auditeurs. Le retrait de la délégation de Mme Garbet n'a pas besoin de passer devant le conseil municipal.
C'est la prérogative du maire.
C'est la prérogative du maire, donc c'est un pouvoir réglementaire du maire. Donc il prend un arrêté, il dit « Madame, monsieur, je vous retire votre délégation, pointe à la ligne ». Mais il voulait aller jusqu'au bout, en fait.
Il n'est pas obligé de dire « bouffe », d'ailleurs. Il peut retirer sans dire « bouffe ».
Oh, mais ce n'était pas suffisant, ça. Donc il voulait purement et simplement l'éliminer en fait, de sa fonction donc, d'adjointe. Et pour ça, effectivement, il faut passer devant le conseil municipal.
Ce qui s'est passé ce jeudi à Narbonne.
Et le problème, Jean-Claude, c'est qu'il faut argumenter, là, effectivement. Il faut démontrer, en fait, que, pour justement retirer cette fonction, cette décision n'est pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la retirer comme ça, sur le bon plaisir du maire.
Oui,
il faut l'argumenter.
C'est
rien, grosse dépression, l'adjointe est incapable de venir, etc. Et là, je lis dans la presse l'argument invoqué. Surcharge corporelle.
Personnel.
Pardon, c'est moi qui ensuite m'en mettais. Surcharge personnelle. Surcharge personnelle. J'ai réfléchi un petit peu, je dis, à quoi fait allusion ce terme aux allusions cliniques évidentes, surcharge pondérale. J'ai croisé Marie-Noëlle Garbet dans la rue, que je connais un peu quand même, c'est une amie, je dois dire ici.
Elle reste svelte.
Elle est tout à fait svelte, une silhouette effilée qui d'ailleurs, fort flatteuse, pour elle, et donne d'ailleurs entre parenthèses les élus qui l'ont viré, notamment les mâles dominants du lieu, devraient s'inspirer, en tout cas pour la montée de la silhouette en question.
N'entrons pas dans ces considérations.
Je ne l'ai pas vu effectivement avaler des tablettes de chocolat de manière compulsive ou avoir des crises de pleurs et de rire de manière hystérique. Non, pas du tout. Donc elle est parfaitement bien dans ses pompes, si je puis dire, puisqu'elle est en marche au passage. C'est la raison qui a été évoquée. Sauf que quand même, là aussi, dernier point, Jean-Claude, si tu permets, Didier Mouly, le fils de Dubert, applique une jurisprudence totalement contraire à celle de son papa, Hubert Mouly, qui a été l'inspirateur et le gardien.
Et qui est à géométrie variable, pour dire les choses.
Je reviens quand même à l'origine, et au concept de base de son père, Nous, au Narbonne.
De la règle Nouveau Narbonne, signée par les élus.
Et appliquée par Hubert Mouly. Je rappelle quand même que Léon Pujot et Alain Madal, quand ils ont fait campagne pour des candidats de droite pour s'opposer, en fait, aux députés socialistes sortants.
Ils étaient candidats.
Ils étaient candidats et on ne leur a retiré ni la délégation, premier point, ni les fonctions d'adjoints.
Voilà. Sauf quand
Alain Madal a été élu député, élu, voilà. Ce qui était parfaitement, en fait, conforme, effectivement, à la charte signée à l'époque. Donc, j'observe, indépendamment de cet argument un peu, bon, allusif, avec des connotations un peu machistes de M. Didier Mouly, qu'il interprète, en fait, une charte dont son père pourrait lui dire qu'effectivement, elle n'a pas, effectivement, l'objet, cette charte, elle n'a pas l'objet d'être interprétée de cette manière, que c'est une déformation, pour une interprétation fantaisiste de son fils, qui devrait certainement, à la matière, retourner aux sources de Narbonne,
voilà, si je puis dire. Et on marque une deuxième pause.